Maud s'offrait ce cadeau et la joie lui était revenue, un carburant indispensable sans lequel la vie devient grise et pesante. L'agrément de ce moment, qui durait le temps de la location, installait une distance, une respiration, une expérience de liberté entre elle et le groupe, formé par son fils aîné, Thibaut, Delphine et Romain. Mais, à bien y réfléchir, sa pratique voilière n'avait pas pour seul effet de lui prodiguer la joie qui lui permettait de renouer avec son rôle de super mother. Maud adhère, semble-t-il, en effet, bien davantage au rôle de la super mother, la super mère, ou encore à celui de la super wife, la super épouse, bien plus qu'à celui de la super woman, dont l'acception paraît à ce jour largement plus répandue. Les conséquences bénéfiques dépassaient le fait de se montrer une meilleure mère ou meilleure épouse au sein de sa famille. Maud célébrait aussi, par la même occasion, ce qu'elle nommait ses épousailles avec la mère. Elle n'avait plus été la même après qu'elle eut embarqué pour sa première heure de voile. Elle avait, avant cette séance de navigation, bien entendu apprécié le lieu exceptionnel où elle se trouvait. Elle avait admiré l'océan, les bateaux au loin qu'elle suivait du regard à partir de la plage et les planches à voile qui croisaient à proximité de la côte. Elle faisait partie de ce paysage de rêve. Elle était environnée par la lumière et l'atmosphère du lieu. L'endroit où l'on vit transforme nos jours. Il les illumine quand il est privilégié, voire magnifique. L'air était incontestablement plus vif et plus limpide que dans la capitale. Les parents et les deux fils l'avaient immédiatement perçu, à peine avait-il entrouvert les portières de la voiture à leur arrivée à Kerbihan. Maud n'en avait cependant pas pleinement profité avant sa première sortie maritime, car elle avait pu, après la voile, se décider à enfin aller nager. C'était ainsi qu'elle avait réussi à célébrer ses épousailles avec la mer. Elle s'était immergée, allongée, étendue, étirée, en crawl tout d'abord pour lutter contre la fraîcheur de l'eau, à la brasse ensuite, la tête sous le niveau de l'eau, protégée par des lunettes étanches. Maud n'avait pas bénéficié, tant qu'elle n'avait pas nagé, de la langueur et de la pesanteur qui suivent le bain. Elle s'était contentée auparavant d'observer, de l'extérieur, les vagues et les récifs, les villas de bord de mer et les bateaux sur l'océan, les bouées et les navires à l'ancre. Elle avait contemplé la mer, mais elle n'avait pas, avant son premier bain, fait corps avec elle. Elle en avait été incapable avant de naviguer à la voile. L'eau, dont la température oscillait entre 18 et 20 degrés, était beaucoup trop froide pour son système thermique personnel. Elle ne pouvait se baigner et elle avait eu conscience de faire coup double lorsqu'elle s'était éloignée du port, barre et écoute de grand voile en main. Elle célébrait alors la première partie de ses épousailles. Elle passait une bonne heure sur les flots, à quelques centimètres au-dessus de la surface de la mer, les pieds dans l'eau, puisqu'un fond d'eau barbotait dans la coque du dériveur. Maud s'habituait à la fraîcheur de la mer. Venait ensuite la deuxième partie des épousailles. Elle abandonnait son bateau aux mains du jeune professionnel de la voile et elle allait nager. Elle tendait ses muscles. Son front fendait les vagues. Des crabes qui couraient au fond de l'eau lui adressaient des saluts complices. Elle nageait et regagnait la plage avec le sentiment d'avoir enfin accompli la digne mission qui consistait à faire honneur à l'endroit et qui lui permettait enfin de faire corps intimement avec lui. Elle avait ainsi célébré ses noces avec la mère. Maud avait passé la soirée, après son premier périple voilier, dans leur petit jardin clos à deux pas de la plage et de la cabane de location. Thibaut servait des brochettes qui cuisaient sur le barbecue emplies de braises rougeoyantes. Il les déposait sur la jolie table de bois autour de laquelle ils étaient tous réunis. Ils dînaient à l'abri des murs protecteurs qui les séparaient de l'animation de la ville. Le pin séculaire au-dessus d'eux avait appartenu à l'ancienne forêt qui avait couvert la dune longtemps avant la construction de la maisonnette. Maud était heureuse. Débarrassée de ses pensées acrimonieuses envers Luc. Elle ne pouvait vivre en nourrissant de si détestables sentiments. Les jeunes et Thibaut étaient tout aussi détendus car, s'ils n'étaient en rien suspendus à l'humeur de Maud, il est cependant bien connu qu'il suffit dans un groupe un tant soit peu intime qu'une seule des personnes se fige soudain dans une triste et lointaine morosité pour qu'un nuage assombrisse l'ambiance générale. Maud respirait, elle ne serait pas pendant ses vacances l'empêcheuse de tourner en rond. L'atmosphère était paisible, la joie circulait discrètement. Son écart de la veille dans la matinée appartenait désormais au passé. « Alors, maman, » lui demanda Luc, « ça s'est bien passé, ton bateau ? Tu as aimé ? Tu n'as pas dessalé ?» Maud n'allait pas laisser sans réponse l'intérêt manifeste de son fils. Elle allait s'exprimer au mieux et au plus vite. L'expérience avait été si fantastique qu'elle désirait que tous connaissent la teneur de ses sensations, la joie qu'elle avait éprouvée sur la mer, et comment elle avait aspiré l'air et senti le vent, et comment elle était demeurée tout près des éléments, et comment elle avait fait corps avec l'océan, et comment ensuite, ultime récompense, elle avait été capable, enfin, de plonger dans les vagues et d'y nager. Elle aurait aimé qu'il considère les différentes étapes de ses progrès. Elle ne connaissait pas de meilleure expression que celle d'épousaille avec la mère pour illustrer ses émotions. Elle allait l'employer pour qu'il comprenne. Maud se lança. Expliquer n'est pas simple. Mais l'expérience était si belle, elle méritait tous les efforts pour une plus grande transparence. Maud leur parla de bateau, de natation, et bien sûr elle n'omit pas de développer le concept d'épousaille avec la mère. Tous quatre lui prêtèrent une oreille obligeamment attentive. Ils sourirent. Ils ne se moquèrent certes pas, mais enfin. Maud perçut qu'elle n'atteignait sans doute pas son objectif. Il la trouvait gentiment originale. Elle avait tenté d'entrouvrir la porte sur son être intérieur. Elle avait placé la barre décidément bien haut. Maud avait, après sa grande première, continué à larguer les amarres. Son enthousiasme était inentamé. Elle naviguait parce qu'elle avait voulu demeurer au cours de ses vacances familiales une agréable compagne. L'effet avait dépassé son intention puisqu'elle avait par la même occasion bénéficié des précieux bienfaits de ses noces maritimes. Pour être complète, la description de ses motivations d'origine devrait également mentionner une très éphémère pensée qui lui avait traversé l'esprit lorsqu'elle s'était décidée. Ah, c'est ainsi, s'était-elle dit au tout début, quand elle avait failli éprouver un début d'irritation envers son fils. les jeunes font la fine bouche, eh bien j'irai, moi, sur la mer. J'en profiterai, ils verront. Il n'est pas interdit de se montrer que je sache un tant soit peu dynamique. Ce sentiment d'excitation, pour le moins renfrogné, avait fait long feu. Loin d'être avisé et surtout trop douloureux pour Maud, il avait rapidement cédé la place à une autre considération discrète, située en arrière-plan de son humeur du moment, semblable à un bruit de fond qui aurait accompagné son état d'esprit. Immédiatement après cette nervosité passagère, Maud avait en effet nourri l'espoir, indistinct, à peine formulé en réalité, selon lequel elle pourrait, en faisant du bateau, éventuellement figurer comme un modèle aux yeux de Luc. Il était le décideur au sein du groupe des jeunes, celui qui proposait, le catalyseur ou encore l'âme du trio. « Je vais naviguer », avait-elle anticipé, sans trop approfondir, brièvement, ainsi qu'avec légèreté. Et normalement, je devrais me faire plaisir. Mais aussi, par la même occasion, en me voyant m'agiter, ainsi, chaque jour, les jeunes pourraient, pourquoi pas, être influencés et être tentés ensuite de faire comme moi. On lance une seule pierre et on touche plusieurs cibles. L'adage est bien connu, plein de bon sens, me semble-t-il. Maud appréciait résolument cette conclusion. Les jeunes ont, de fait, navigué après que Maud eut entamé sa période voilière. Furent-ils en cela stimulés par sa détermination? Une réponse certaine semble pour le moins hasardeuse. Quoi qu'il en soit, le comportement maternel n'aurait su leur être néfaste. Maud s'en réjouissait. Il n'est décidément pas simple, lorsque l'on a plutôt fait partie des mères à forte tendance formatrice et éducative, d'abandonner spontanément ce rôle, même si son fils a dépassé les 24 ans, et même s'il est, qui plus est, désormais accompagné par une mignonne petite jeune fille. Maud vit une relation profonde à la voile. Elle suivait son père en bateau lorsqu'elle était enfant. Elle était son équipière, à son poste, sur le banc de bois du Vaurien familial. Sylvain était à la barre, elle attrapait l'écoute bâbord, puis l'écoute tribord, elle bondissait d'un côté à l'autre du bateau selon les virements de bord décidés par son père. La compétition exigeait qu'il manœuvre rapidement, sans avertissement préalable. Maud réagissait au plus vite. « Baisse la dérive !» lui commandait-il. « Relève-la !»« Attention à l'empannage !»« Installe le tangon !»« Enlève-le !» Ses mouvements étaient souples et légers. Elle devait comprendre les instructions paternelles à l'instant où elles étaient données. L'affaire était sérieuse si elle se trompait. Une flottille de bateaux les dépassait, que son erreur eût été ou non suivie d'un dessalage. Leur classement tendait alors vers la médiocrité. La fierté de son père était mise à mal devant ses amis et néanmoins concurrents qu'il retrouvait chaque dimanche. Le bonheur inondait le cœur de Maud quand elle était à la hauteur des attentes de son père. Elle aurait en revanche voulu disparaître au plus profond d'une cave inaccessible quand elle avait démérité. Était-elle à l'époque le moins du monde brimée ou malheureuse? La question n'avait pas de sens. Elle était avec son père. Sa présence lui était offerte. Elle s'en emparait. Elle interpréta, des années plus tard, ce temps partagé avec lui, comme de l'amour qu'il lui prodiguait, dont elle se saisissait avec enthousiasme. Les heures passées ensemble, tendues vers le même objectif, le regard fixé sur la prochaine bouée, avaient fortifié en elle de solides racines. Celle-ci, profondément enfouie dans son passé, lui avait permis de grandir. Maude était pourtant longtemps demeurée, pendant son enfance voilière, dans l'incompréhension totale de l'univers du vent, des principes de la propulsion éolienne, de l'analyse du monde en deux zones bien distinctes, la surface s'étendant en deçà de la ligne du vent, la surface sous le vent, et celle située au-delà de la ligne du vent, la surface au vent. Le savant jeu des voiles et de l'équilibre du bateau ne lui était devenu intelligible qu'aux alentours de 13 ans, en une infime fraction de seconde. Le talent pédagogique ne figurait pas parmi les qualités de son père. Il n'expliquait pas. Choc, board, monte au rappel, on vire, constituaient ses seules manifestations verbales. Il ne dévoilait ni les causes ni les effets. Ce fut un dimanche de novembre que la lumière se fit dans son esprit. Le père et la fille avaient passé la journée sur l'eau. Le soir, ils avaient accosté, ils avaient désarmé le bateau, plié les voiles, s'étaient rendus à la remise des prix. Ils avaient repris la voiture qui tractait le joli bateau à l'allure têtue, dont la coque était couverte d'une brillante couche de peinture blanche. Les voiles, craquantes et neuves, étaient lovées dans leur sac à voile. Ils revenaient à la nuit tombante, les lumières brillaient sur la nationale. Ils regagnaient la maison où les attendaient Claire, la mère de Maude, ainsi que Thérèse et Cathy, ses deux sœurs, l'une plus âgée, l'autre plus jeune. Maude était assise près de son père lorsque soudain, la logique de la propulsion à voile lui apparut. Les allures, tout comme les amures, n'eurent, d'un moment à l'autre, plus de secret pour elle. En cet instant qui lui sembla magique, la théorie et la pratique se complétèrent parfaitement. Maude n'avait jusqu'alors pas disposé des mots capables de donner du sens. Les justifications rationnelles trouvèrent, une à une, leur juste place. Maude revenait ce soir-là dans leur confortable maison de la banlieue sud, riche d'un savoir nouveau. Elle accédait de façon originale et personnelle à la compréhension. Le temps d'un battement de cœur, elle s'était infiniment rapprochée de son père. Elle était, mystérieusement et sans effort, entrée dans le secret des initiés. L'événement était immense. Les relations entretenues par Maude des années plus tard avec le monde de la voile entraient en résonance avec celles qu'elle avait entretenues enfant avec son père. Elle touchait aussi à ce moment unique, vécu par elle comme un moment d'illumination. L'univers voilier, le lecteur l'aura compris, n'était pas prêt de la laisser indifférente. Maude avait croisé, chaque jour, devant les digues de Port-en-Gif, une minuscule yole de plastique, flambant neuf, menée par un grand-père visiblement ravi. Elle avait assisté quelques jours avant qu'elle-même ne prenne la mer aux premières opérations de gréement du petit bateau à voile. le tout nouveau propriétaire découvrait ce matin-là les différents éléments de sa récente acquisition. Le bateau ressemblait davantage à une maquette ou à un jouet qu'à une véritable embarcation. La famille de l'heureux grand-père s'extasiait autour de lui. Enfants et petits-enfants participaient à l'armement de la miniature aquatique. De par la forme de sa coque, elle prodiguait apparemment une grande simplicité de manœuvre ainsi qu'une sécurité à toute épreuve. Le grand-père s'était offert son rêve pour les vacances de capitaine de marine à voile. Il le réalisait chaque jour. Maud le croisait. Les deux rêveurs de la mer s'adressaient de discrets signes de reconnaissance.